Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir les curieux, soyez les bienvenus dans votre émission préférée du soir. J'espère que vous allez bien. Nous, on a la patate. Vous allez bien, Thomas ?
Mais oui, on est en pleine forme. Salut Sidonie, salut à toutes et à tous au programme. Tout ce qu'il ne faut surtout pas faire, sinon, c'est la crise cardiaque assurée. Notre invité, vous verrez, à partir de 20h30, est cardiologue et il a fait la liste de tous les comportements à risque.
Et puis tout à l'heure, c'est l'histoire du jazz que l'on va vous raconter, de Dizzy Gillespie à Melody Gardot, en passant par Miles Davis et la Fitzgerald. Toutes les stars du jazz dans la curiosité vers 21h15.
Et puis dans cette émission, on aime les histoires d'aventuriers, comme jeudi dernier, quand notre invité nous raconte son accueil à l'aéroport de Pyongyang, en Corée du Nord.
À peine franchi les formalités, en effet assez nombreuses, un monsieur de grande taille, les yeux bridés naturellement, est arrivé vers moi, m'a dit « Vous êtes monsieur Gouraud, oui, soyez bienvenus, nous sommes très heureux de vous accueillir, parlons parfaitement le français. Ouais. » Et il me disait « Voilà, écoutez, nous sommes très heureux, je serai à votre disposition pendant tout votre séjour, et je m'appelle monsieur In, à ne pas confondre, me dit-il, avec monsieur Out. » Et donc, dès la première minute, j'ai vu que, contrairement à ce qu'on peut croire, ouais, on peut rire en Corée du Nord.
Voilà, il y avait de l'humour, mais évidemment, ce guide l'a cornaqué et l'a suivi pendant tout son séjour en Corée du Nord.
De l'humour organisé. Allez, voilà. D'autres pépites tout de suite dans la curiosité. On vous dévoile les secrets d'une terre de légende sur RTL, Mont-Saint-Michel.
La curiosité est un vilain défaut.
Posé au cœur des éléments, ni vraiment sur la terre, ni tout à fait dans la mer. Un triangle de pierre dressé vers le ciel. RTL. Ce petit bout de rocher, mont sacré de la chrétienté, suscite depuis 1300 ans toutes les convoitises. Jusqu'à 22h, le mont Saint-Michel, ni île ni péninsule, est un jalon planté dans la grève. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Un jalon dans les remous de notre histoire.
Une île, une baie et des siècles de légendes. Bienvenue en Normandie, on va vous raconter les secrets du Mont Saint-Michel. C'est le monument le plus visité en région. Bonsoir, Lomic Guillot.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine Management et spécialiste de ce caillou, cette petite merveille, moi, que j'ai visité toute mon enfance. Vous aussi, vous l'avez... pas forcément visité, mais en tout cas admiré d'une rive.
Oui, du bord. J'ai toute ma famille maternelle qui est originaire de la région, d'un village entre autres qui s'appelle Pont-Orson, qui est vraiment la ville la plus proche du Mont. J'y allais tout le temps en vacances. J'y passais beaucoup de temps et j'ai toujours été fasciné par ce rocher. Puis au bout d'un moment, j'avais fini par trouver que c'était normal dans le paysage, un peu comme nous les Parisiens avec la Tour Eiffel, où il nous vient plus l'idée d'aller y monter. Et puis j'ai appris à le redécouvrir et surtout à l'aimer. Alors je sais pas si je suis spécialiste du Mont Saint-Michel, mais en tout cas, je suis un vrai amoureux du site et de l'endroit, et toujours émerveillé par ce qu'on y découvre quand on y va, puisque il est tout le temps différent, en fait.
Alors, on va découvrir avec vous l'histoire du Mont Saint-Michel. Vous publiez Les Secrets du Mont Saint-Michel, enquête sur 1300 ans d'histoire et de légende aux éditions Prisma. Alors, on va remonter là très 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 loin, même beaucoup plus loin que 1300 ans, pour expliquer comment cet éperon, là, ce mont s'est créé. Donc, c'est il y a des centaines de millions d'années, c'est ça ?
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de la création de l'abbaye sur le Mont Saint-Michel, le premier oratoire où l'archange serait apparu en 708.
On le racontera tout à l'heure quand même.
Exactement, mais ça m'intéressait, moi, de remonter plus loin, de savoir pourquoi on avait d'abord eu l'idée de construire cet oratoire à cet endroit-là, ce qu'il y avait derrière cette histoire d'apparition et cette fascination. Et donc, j'ai voulu remonter un peu vraiment plus loin, puisque, effectivement, le tout début de l'histoire commence 570 millions d'années avant notre ère, à l'époque où se forme le massif armoricain, donc qui sont aujourd'hui les côtes de la Bretagne, qui allait à l'époque jusqu'au Canada. Et puis, quelques temps après, vers -535, l'époque, la Terre n'était pas encore formée, il y avait énormément de mouvements de plaques, d'éruptions, et il y a ce qu'on appelle une montée intrusive qui s'est produite. Alors ce que c'est comme une éruption volcanique, mais au lieu de sortir, ça reste sous la Terre, et le magma refroidit et devient une sorte de granit extrêmement dur.
Donc ça veut dire que le Mont Saint-Michel, à l'origine, est un mont qui est sous terre.
Exactement, c'est une montée de lave qui a refroidi sous terre. Et puis petit à petit, alors ça prend un certain temps, on va dire, là on est à moins de 100 millions, l'érosion faisant son travail, eh bien le mont petit à petit apparaît au milieu de cette plaine qui était d'une roche plus friable. Il apparaît pas seul, il apparaît avec deux autres petits rochers qu'on voit toujours à côté. Il y a l'île de Tomblaine qui se trouve 2,6 km derrière le mont, et puis le mont Dol qui lui est maintenant dans les terres à côté de Dol de Bretagne, donc côté breton. Lui c'est le mont breton, alors que le mont Saint-Michel est bien le mont normand.
Il y a beaucoup d'histoires ou de croyances liées au magnétisme supposé du lieu. Ça vient de la composition de la roche.
Oui, et puis on peut imaginer que ça vient aussi de ce lien quasi direct qu'il y a avec le centre de la terre, un peu comme ce que racontait Jules Verne. Et puis effectivement cette roche particulière qui est une roche qui vient du plus profond de la planète et qui donc fascine et attire certains qui effectivement lui voient des
depuis vertus, très très longtemps les premiers visiteurs, on sait depuis quand c'est un lieu de pèlerinage, j'emploie ce terme là, mais c'était
un lieu sacré
encore,
en tout
c'était
cas
pas encore ce terme.
Alors ce qui est compliqué avec le Mont Saint-Michel, c'est comme il a été très construit finalement sur une petite surface, il y a beaucoup de choses qui ont disparu avec le temps, même si on en retrouve encore récemment, il y a eu des fouilles qui ont permis de découvrir des traces des premiers habitants, alors qui sont pas les premiers, les plus anciens préhistoriques, mais qui sont du Moyen-Âge. En revanche, on sait que sur le Mont Dol, qui est donc, je vous disais, le cousin côté breton, il y a eu des traces là d'hommes préhistoriques, d'habitations, on a retrouvé des outils, etc. Voilà. Et sur le mont, on suppose qu'il y a eu effectivement assez tôt des cultes druidiques, essentiellement, avant le culte chrétien.
L'homme Guyot, sa géographie aussi, la géographie du mont Saint-Michel explique son aura. C'est une baie qui ressemble à quoi, si on devait la dessiner ?
Alors c'est un V entre la Bretagne et la Normandie, d'un côté la côte bretonne, de l'autre la pointe du Cotentin, et tout au fond le Mont Saint-Michel. Ce V, c'est un entonnoir avec de l'eau qui recouvre, alors ça fait 500 km² la baie du Mont Saint-Michel, 80% de la baie est recouverte par de l'eau. C'est un site exceptionnel qui est classé depuis 1979, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui a une pente assez faible, ce qui fait que l'eau finalement n'y est pas très profonde, ce qui crée des réflexions, une lumière vraiment particulière.
Ça fait comme un miroir, c'est ça ?
Exactement, comme un miroir, et le mont qui est tout au fond de ce miroir.
Quand est-ce que le Mont Saint-Michel est devenu une île ?
Alors le Mont Saint-Michel est devenu une île. Il y avait pendant longtemps deux théories. Les moines qui ont construit le sanctuaire racontaient qu'il y avait eu une sorte de marée gigantesque juste avant l'an 708 qui avait balayé une forêt qui se trouvait au pied du mont et qu'il était devenu une île à ce moment-là. En réalité, on date plutôt la période, le fait qu'il soit devenu une île à l'an moins 8000, à la fin après les dernières glaciations, quand la Manche est arrivée jusqu'au fond de la baie.
Donc à la fin de la glaciation, c'est ça
la glaciation, c'est moins 12000 la dernière. Ouais. Là, la mer arrive, moins 12 000, elle est à peu près à 150 km du mont, puis petit à petit elle se rapproche et vers moins 8 000, elle entoure le rocher.
Alors, je ne sais pas si les auditeurs font la même chose que moi, mais je suis en train de visualiser le Mont Saint-Michel que je connais et de l'imaginer avec une glaciation ou juste après la glaciation. Il y avait quoi ?
C'était la glaciation plutôt au niveau du pôle quand les glaciers ont fondu et que l'eau
J'ai compris.
C'était une plaine, c'est ça ? Il y avait en fait ce rocher et une plaine autour.
Mais il y avait quand même effectivement avec ça ressemblait plutôt ça ressemblait au paysage de la Finlande avec un paysage de toundra, beaucoup d'animaux type des loups, des cerfs, des rhinocéros
autour du Mont Saint-Michel
et des mammouths. On a retrouvé même des ossements de mammouths dans ce qui est aujourd'hui la Manche,
Des rhinocéros.
Façon l'âge de glace, voyez.
Ah oui, c'est drôle ça. On n'a rien inventé en fait.
Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est une île ?
Oui, c'est une île, une trentaine.
Parce qu'il y a des marées, donc parfois il y a de l'eau, parfois ce sont des plaines. Alors c'est quoi le Mont Saint-Michel ?
Une île à éclipse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Une île de beurre.
C'est presque une île, plus qu'une presqu'île. Mais,
c'est presque une île, on dit ?
Presque une île, on peut dire. C'est une île, en tout cas, à moyen terme, ça sera une île une cinquantaine de jours par an, pendant deux heures, le temps que la marée haute soit haute, lors des plus forts coefficients.
Est-ce que c'est vrai que dans la baie du Mont Saint-Michel, l'eau remonte comme un cheval au galop ? La réponse, dans un court instant, les curieux.
Vous écoutez RTL. RTL. Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
vous cherchez peut-être une idée de balade en week-end ou pour cet été.
Il y a de l'eau qui monte là, Thomas.
Voilà, attention. À cheval ou pas. En tout cas, on vous propose le Mont-Saint-Michel. Mais faites attention parce que l'eau monte assez rapidement. C'est l'une des questions que l'on va poser à notre invité, le journaliste Lomic Guillot. On était en moins 8000. Vous nous expliquiez que le Mont-Saint-Michel est devenu une île à cette époque-là. Mm-hmm. Depuis, c'est quoi? C'est un long combat des hommes, des humains pour grappiller un peu de terre?
Oui, alors ce que je vous disais, l'eau est arrivée petit à petit au fond de la baie au fil des ans. Et puis, maintenant qu'elle est arrivée au fond de la baie se comble petit à petit, puisque comme c'est un V, l'eau arrive, la mer arrive, apporte des sédiments et ça bouche le fond de l'entonnoir. Donc petit à petit, la baie maintenant se comble. Ça a été accentué par les hommes, puisqu'on a construit des polders, ce qu'on appelle des polders, c'est des terres gagnées sur la mer. Les premiers, c'était il y a assez longtemps maintenant, vers le 11e siècle, avec un duc de Bretagne qui a construit une digue qui s'appelle la digue de la Duchesse Anne, qui est toujours là aujourd'hui.
Et c'est une digue comment, de peupliers, c'est ça?
Alors, c'est une digue de terre avec des peupliers plantés dessus, qui ont maintenant bien poussé, qui sont assez jolis, qu'on peut prendre à vélo ou à cheval, pourquoi pas, pour aller vers Cancale.
Et ça sert toujours de digue aujourd'hui?
Non, parce que la mer maintenant est encore plus loin. Donc c'est une digue au milieu des terres.
Mais c'est un combat qui date de cette époque-là, ou même on trouve des traces de tentatives d'implantation humaine dans certaines zones de la baie.
Les premières implantations humaines, c'est à la préhistoire, vers le Mont Dol. Ensuite, effectivement, dans cette région des marais de Dol, l'homme a essayé de maîtriser la nature en construisant donc des digues, puis des polders pour gagner des terrains. Autour du mont lui-même, finalement, la préoccupation du fait que ça devienne une île n'est que assez récente, puisque au contraire, à la fin du 19e, on a construit une digue pour permettre aux gens d'accéder par la route jusqu'au mont, et cette digue a contribué à l'ensablement de la baie et à faire que le mont ne soit plus une île.
Les polders, c'est aussi un moyen de créer de la terre cultivable. C'était l'objectif, c'est ça?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de carottes en particulier autour du Mont-Saint-Michel. Des terres assez riches, puisque c'est des sédiments qui sont effectivement très 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 riches, et donc beaucoup de cultures autour. Oui.
Lomic Guillot, vous publiez Les secrets du Mont-Saint-Michel, enquête sur 1300 ans d'histoire et de légende, c'est aux éditions Prisma, et on y lit aussi la colère de certains grands écrivains, dont Victor Hugo au 19e siècle, qui râle contre ces digues. Qu'est-ce qu'il en dit?
Eh bien, Victor Hugo, à l'époque, il écrivait « Le Mont Saint-Michel est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte ». Et il ajoutait « Il faut que le mont reste une île, il faut conserver à tout prix cette double œuvre de la nature et de l'art ». Il râlait contre, effectivement, l'ensablement, et il râlait en particulier contre la construction de cette digue route qui arrivait jusqu'au pied des remparts et qui faisait que le mont n'était plus une île, puisqu'il était relié à la terre de façon permanente. Et cette digue a contribué ensuite à ensabler le fond de la baie. Elle n'a été détruite que récemment, en 2013, et donc ce n'est que depuis cette date que finalement le vœu de Victor Hugo a été exaucé et que le mont est redevenu ce qu'il devait être, c'est-à-dire une île.
Et ce que l'on comprend à travers cette citation d'Hugo, c'est la dimension patrimoniale de son Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire que c'est un enjeu national, c'est un enjeu presque politique, c'est un enjeu culturel, symbolique.
C'est un lieu de pouvoir depuis toujours, d'abord pour les religieux, c'est un lieu de pouvoir économique aussi, puisque le Mont-Saint-Michel a été, à une époque, été donné, on peut dire, comme une récompense à des abbés qui avaient un titre honorifique et qui prélevaient la moitié des recettes de l'abbaye pour simplement le mettre dans leur poche. Donc ça a toujours été un lieu d'argent, de pouvoir, un lieu d'influence aussi, en tout cas dès l'arrivée des moines sur le rocher. Oui.
Vous nous avez raconté tout à l'heure que le Mont-Saint-Michel était une île, on va dire, 50 jours par an,
oui,
c'est ça?
50 fois, pas 50 jours.
50
c'est
fois
quelques heures à chaque
par
fois.
An. Ces marées qui sont uniques, ces marées du Mont-Saint-Michel, comment elles fonctionnent? On dit qu'elles sont extrêmement dangereuses. Déjà, ça c'est une réalité ou c'est une légende du Mont-Saint-Michel?
Alors il y a plusieurs choses autour des marées du Mont. D'abord, je vous disais, la baie est très, très vaste, elle est en pente assez douce, ce qui fait que l'eau peut arriver, remonte assez vite. Il y a ce qu'on appelle un marnage, c'est-à-dire une différence entre la marée haute et la marée basse, qui fait partie des plus hauts du monde. Il y en a un seul qui est plus important, qui est au Canada.
Alors ça veut dire quoi en fait, Canada, concrètement?
C'est-à-dire qu'entre la marée haute et la marée basse, il y a l'équivalent de trois étages ou quatre étages d'un immeuble.
Si ah oui.
À peu près 14 mètres. Donc voilà. Et puis ensuite, la vitesse de l'eau est effectivement importante sur cette pente douce. Elle remonte alors pas du tout à la vitesse d'un cheval au galop, ou alors un cheval arthritique ou cardiaque. On verra ce qu'en dit votre invité suivant.
Mais alors il est pas vétérinaire, mais il aura peut-être son avis quand même sur la vitesse d'un cheval cardiaque, c'est ça ?
Coureur, non, l'eau remonte à peu près 1 mètre par seconde. Ça fait, je crois, un peu moins de 4 km/h. Et vraiment, quand il y a un fort coefficient de marée, ça peut aller jusqu'à 8 ou 10 km/h. Le cheval au galop, c'est plutôt 25 km/h pour un cheval moyen et 60 si vraiment il va très vite au tiercé.
C'était une formule de l'écrivain Théophile Gautier, qui était un des adeptes aussi de Victor Hugo. Donc, ils partageaient cette passion pour le Mont-Saint-Michel. Il disait que les marées, c'était des chevaux blancs chargeant au galop. Ça veut dire que les écrivains et les artistes aimaient comme ça s'approprier le Mont-Saint-Michel et en raconter et en tirer des légendes.
Beaucoup ont écrit sur le Mont, beaucoup ont contribué à sa réputation, à sa légende. Alors là, pour les chevaux blancs, c'est souvent l'écume aussi d'un autre phénomène qu'on appelle le mascaré dans le Mont-Saint-Michel, qui est la marée qui remonte dans un fleuve et qui fait un phénomène de rouleau assez impressionnant, effectivement, comme une cavalcade de chevaux que Gautier décrivait très bien. Mais il n'est pas le seul, beaucoup ont écrit effectivement sur le Mont.
Ça existe aussi le mascaré au Mont-Saint-Michel, parce que moi je connaissais ça en Garonne, où on peut surfer le mascaré, alors je ne sais pas, 2 ou 3 fois par an en fonction des très grandes marées.
Et on peut faire ça aussi au Mont-Saint-Michel. Sur les deux fleuves qui arrivent, qui sont les deux petits fleuves, qui sont le Couesnon et la Célune, il y a souvent des kayakistes qui viennent pour profiter du mascaré quand il y a des coefficients au-dessus de 100 en général.
Ouais, ce qui est assez génial, parce que c'est une vague qui n'en finit pas, enfin qui est très très longue, quoi, qui est un peu molle, mais qui est très très longue. Et à propos de sport, tiens, moi je me souviens, je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y a une course à pied qui se déroule au
Mont-Saint-Michel,
et avec la question d'être attrapé ou pas par l'eau. Est-ce que ça existe toujours, cette course ?
Je ne sais pas, ça. En revanche, ce qui existe, c'est le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a lieu il y a un mois à peu près, qui a la particularité d'être le seul marathon au monde dont on voit la ligne d'arrivée depuis la ligne de départ, puisqu'il se déroule au bord de cette baie, et on part à côté de Cancale, et on voit effectivement au loin la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si ça motive ou si ça déprime.
Alors, si on n'est pas sportif, mais qu'on aime bien juste marcher, est-ce qu'on peut se balader vraiment dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire autour, faire des cercles comme ça, si
alors
on y arrive.
Il faut quand même faire attention, puisqu'il y a depuis le rétablissement, ce qu'on appelle le rétablissement du caractère maritime du Mont, c'est-à-dire les grands travaux qui ont permis de faire qu'il redevienne une île, il y a un barrage sur le Couesnon qui retient l'eau et qui la lâche régulièrement pour permettre de chasser les sédiments dont je parlais tout à l'heure.
Il y a des panneaux, il y a des indications,
non,
des petits plannings.
Non, alors c'est pas au moment forcément c'est lâché, mais ça fait que le cours du Couesnon, qui est le fleuve qui arrive, peut changer selon les périodes, donc il est quand même conseillé de s'aventurer plutôt avec un guide. Ils sont nombreux à proposer de faire des excursions dans la baie, mais c'est vrai que c'est incroyable et c'est magique, c'est une expérience unique que d'aller marcher dans ces sables si particuliers autour du Mont.
Alors le Mont-Saint-Michel, on peut le voir de plusieurs lieux, de plusieurs villes ou villages. C'est quoi le meilleur point de vue, d'après vous ?
Y a beaucoup de points de vue qui sont sympas. Il y a la pointe du Groin Sud qui se trouve près de la Célune, justement, qui offre vraiment un beau point de vue sur le Mont et Tomblaine et l'ensemble de la baie. Après, on le voit aussi très bien du jardin botanique d'Avranches qui se trouve sur les hauteurs. Deux points de vue qui sont assez sympas. Et il y a aussi un autre point de vue plus près quand on arrive. Il y a un petit village qui s'appelle Moidré où il y a un moulin à vent, et du moulin, on a aussi une jolie vue sur le Mont parce qu'on le voit sur les champs, comme s'il était posé non pas sur la mer mais sur les champs. Ça fait une vue un peu différente qui est aussi très originale.
Et ben voilà, de bons conseils de balade. Le Mont-Saint-Michel, forcément on va aussi se poser la question de son nom, cet archange là qui aurait troué le crâne d'un évêque pour se faire entendre.
C'est du cheval.
Allez, à tout de suite les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL,
toujours avec vous.
Au milieu d'une immense baie de l'océan Atlantique, le Mont-Saint-Michel se dresse fièrement entre Bretagne et Normandie. La curiosité est un vilain défaut. Et après la Tour Eiffel, c'est le monument le plus visité de France. À l'intérieur des remparts, on trouve l'abbaye qui a fait sa renommée, un musée et surtout des commerces. Détenus par une dizaine de familles seulement, des habitants du Mont-Saint-Michel depuis plusieurs générations.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un caillou sacré au cœur d'une baie miroitante. On se balade entre deux marais au Mont-Saint-Michel avec le journaliste Lomic Guillot. Alors, quand est-ce que le Mont-Saint-Michel s'est-il appelé ainsi ?
Il s'est appelé ainsi vers l'an 700, un peu après qu'on y ait construit le premier oratoire, c'est-à-dire lieu de prière dédié à l'archange Saint-Michel, qui aurait donc fait une apparition sur le Mont en 708.
Alors attendez,
Saint-Michel, présentez-nous un peu.
Alors l'archange Saint-Michel, c'est celui qui est chargé de la pesée des âmes. Donc,
face au programme.
Voilà, donc c'est celui qu'on venait voir. C'est d'ailleurs ce qui différencie aussi le Mont-Saint-Michel d'autres sanctuaires. On va à Lourdes pour soigner son corps, des bobos, espérer un miracle ou plus que des bobos, mais voilà, pour s'occuper de son corps, alors qu'on venait au Mont-Saint-Michel plutôt pour élever son âme. On venait espérer se faire racheter, ou en tout cas racheter ses péchés auprès de Saint-Michel, qui était chargé de vous conduire ou non au paradis.
Mais comment ça, tout ça commence ? C'est l'archange Saint-Michel qui vient se présenter à un évêque ?
Alors c'est oui, on peut le raconter comme ça. Effectivement, il y avait un évêque à Avranches justement qui s'appelait l'évêque Aubert, qui venait régulièrement sur le mont qui à l'époque s'appelait le mont Tombe pour prier. Il y avait déjà eu sur ce mont des cultes druidiques dans des temps plus anciens, puis quelques ermites qui vivaient là. Il y avait deux chapelles primitives et lui venait se recueillir et prier. Et puis on dit qu'un jour dans son sommeil, Saint Michel serait apparu et lui aurait demandé de construire un sanctuaire à sa gloire au sommet du Mont-Saint-Michel.
Oui, mais il ne réagit pas tout de suite. Au début, il dit bon, j'ai des visions, c'est des rêves.
Voilà. Comment... Donc, il fait rien. Et puis, quelques jours plus tard, Saint-Michel revient pendant son sommeil. Lui demande de façon insistante de construire un sanctuaire. Il ne fait toujours rien. Il se dit quand même, en se réveillant, c'est pas très normal, je vais me mettre à la diète. Peut-être qu'il avait... il se disait qu'il avait abusé la veille. Donc, voilà, il entame un jeûne. Et puis, voilà, quelques temps passent. Troisième rêve, troisième apparition de Saint-Michel, qui là se fâche un peu quand même. Et qui lui dit, mon petit Aubert, il va vraiment falloir que tu décides à construire ce sanctuaire. Et il lui appuie sur le crâne. Et il lui perfore le crâne. Voilà ce que raconte la légende. Légende attestée quelques années plus tard, vers l'an 1000, quand les moines du Mont ont retrouvé le crâne de Saint Aubert avec un trou effectivement rond au milieu du crâne. Le crâne est depuis exposé.
On peut l'observer, ce crâne de l'évêque
Avranches avec son trou, effectivement. Alors il y a des explications plus rationnelles que l'apparition de l'archange pour expliquer
qui seraient lesquelles.
La dernière en date, qui est assez récente, c'est une histoire de kyste en fait qui se forme au moment quand Aubert n'était qu'un embryon et en fait comme un petit bout de peau qui se coince dans l'os crânien, puis qui en fait se développe des deux côtés et qui se rejoint et qui finit par faire un trou. Donc ça lui faisait sans doute une bosse quand il était vivant, et puis une fois mort, on s'est rendu compte que cette bosse était un trou parfaitement rond du fait de ce kyste.
Ou bien c'était l'archange Saint-Michel.
Ou alors on imagine que la légende a été écrite ensuite en redécouvrant ou en découvrant le crâne de cet évêque Aubert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est mis à la tâche, il s'est attelé à la construction de ce sanctuaire.
Exactement.
Il ressemble
alors,
à quoi ce premier sanctuaire ?
C'est difficile à dire parce qu'il ne reste vraiment rien du sanctuaire de l'époque. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas parti non plus comme s'habille en tête. Il s'est inspiré d'un sanctuaire qui existait en Italie, sur le mont Gargan, qui se trouve dans les Pouilles. Et alors... ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sanctuaire avait beaucoup de succès à l'époque. Donc on peut sans doute imaginer que Aubert, voyant que ce sanctuaire italien drainait beaucoup de pèlerins, s'est dit que finalement il y avait peut-être moyen de construire quelque chose qui favoriserait également ou qui ferait la publicité de son église.
Et ce sanctuaire, c'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel aujourd'hui, celle qui s'élève
Alors non, ce sanctuaire,
et qui pointe son doigt vers le ciel.
Non, il a été remplacé par une église carolingienne. Qui aujourd'hui se visite de temps en temps, qu'on appelle Notre-Dame sous terre, qui est vraiment au cœur du Mont-Saint-Michel. On n'a pas retrouvé trace, même dans cette église, même si on a longtemps cru qu'il y avait des endroits qui pouvaient être le sanctuaire d'origine, mais a priori les dernières recherches montreraient que non, c'est pas ce sanctuaire qui a plus, il n'en reste rien. En revanche, il y a d'abord eu cette église, puis par-dessus, au fil des ans, on a construit ce qui est devenu l'abbaye. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une abbaye qui s'est construite comme ça d'un coup, c'est pas comme une cathédrale, l'œuvre décidée de quelqu'un et ensuite des gens qui auraient suivi un plan. C'est une construction qui s'est faite par petits bouts, petit à petit, qui est aussi un peu le fruit du hasard, puisqu'il y a eu beaucoup de destruction. Ce rocher au milieu d'une baie a été extrêmement souvent frappé par la foudre, donc il y a eu beaucoup d'incendies, de destruction. La guerre de Cent Ans aussi a fait quelques dégâts. Et donc petit à petit, sa morphologie actuelle s'est dessinée au fil des ans. Ça a pris presque, on va dire, 600, un peu plus, presque 1000 ans finalement, pour qu'il ait sa physionomie actuelle.
Et dans la longue histoire du Mont-Saint-Michel que vous racontez dans ce livre publié chez Prisma, Les secrets du Mont-Saint-Michel, Lomi Guillot, vous racontez aussi que ça a été une prison.
Oui, ça a été une prison. Alors,
pendant
on parlait des noms du Mont-Saint-Michel, ce qui est assez amusant, je trouve, c'est qu'à une époque, même après la juste après la Révolution française, il s'est même rebaptisé le Mont Libre. Évidemment, à l'époque, Saint-Michel était moins bien vu, donc on l'avait rappelé le Mont Libre, alors qu'il était devenu une prison. Oui, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu d'abord, quand du temps des moines, quelques cachots. Il a ensuite été utilisé par Louis XI, puis Louis XIV pour y exfiltrer des prisonniers politiques. Et puis après la Révolution, pendant une cinquantaine d'années, c'est devenu une prison qui a accueilli quand même en tout, on estime 14 000 prisonniers. Il y en avait jusqu'à 700 en même temps sur le mont, dans des cellules qui avaient été construites absolument partout. Jusque dans le cloître, on avait bâti des cellules pour accueillir ces prisonniers. Oui.
Alors, vous aimez les secrets, vous êtes gourmand. Bah tiens, on va associer les deux. On va vous raconter les secrets de la mère Poulard. Vous avez peut-être mangé des petits gâteaux ou alors même carrément une omelette si vous êtes allé au Mont-Saint-Michel. D'où ça vient? Quelle bonne idée. Tiens, allez, à tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Et puis sur RTL, on continue de découvrir les secrets du Mont-Saint-Michel avec notre invité, le journaliste Lomig Guillot. Alors, pendant qu'on écoutait Texas, vous disiez qu'il y avait une petite balade que vous aimiez faire, une rue particulière.
Un secret que vous balancez carrément
à
l'antenne, Thomas.
Bah c'est le moment. Il y a des centaines de milliers d'auditeurs qui vous écoutent. Donc, c'est quoi cette petite rue qu'il faut surtout pas louper?
Ah, il faut vraiment pas rater la rue des Cocus,
qui
est plutôt une ruelle. Alors, quand on rentre dans le Mont-Saint-Michel, on ne peut pas rater la rue principale, qui est la rue avec tous les commerces qui montent jusqu'à l'abbaye. Mmh. En revanche, au milieu de la montée, à peu près sur la gauche, entre deux boutiques de souvenirs, il y a une toute petite ruelle, un passage avec 2-3 marches. On passe plutôt de profil, enfin en ce qui me concerne, parce que c'est très très étroit.
Ah oui, effectivement.
Ça s'élargit après.
Parce que vous êtes assez baraqué, mais bon.
Non, ça va, mais.
Voilà,
mais non, la rue est vraiment très.
C'est vraiment étroit, quoi. Ouais.
Et donc elle s'appelle la rue des Cocus, parce qu'on raconte qu'à une époque, les couples qui n'étaient pas forcément légitimes venaient s'embrasser là, en secret et en cachette, puisque c'est l'endroit le plus ramassé du monde.
Le plus resserré.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a passé ces quelques marches, ça s'élargit, et là, on arrive dans le village un peu plus ancien et authentique du Mont. On voit les vieux toits et la baie derrière, donc c'est assez joli, c'est beaucoup plus calme que la rue principale et ça permet de profiter d'un panorama.
Enfin, c'était plus calme parce que depuis votre
bah
conseil...
Voilà, un bouchon dans la rue des Cocus.
Mais qui vit au Mont-Saint-Michel? On vous a pas encore posé cette question. Il y a des habitants? Il y a des gens
Il y a 95 électeurs qui sont essentiellement des commerçants mais qui n'habitent pas sur le Mont, et il y a à peu près, on va dire, une petite trentaine d'habitants aujourd'hui, dont des moines et noniales qui logent à l'abbaye. Il y a un guide conférencier, il y a une famille de commerçants, et voilà, c'est à peu près tout. C'est assez rapidement vu.
Et parmi les habitants, les anciennes habitantes célèbres du Mont-Saint-Michel, la mère Poulard. Alors on découvre dans votre livre Les secrets du Mont-Saint-Michel, que vous publiez aux éditions Prima, qu'en fait c'est une grande famille. C'est pas juste l'histoire d'une femme. Ça commence par
cette femme qui était en fait la femme de chambre d'un architecte qui est venu après que le mont était une prison. Puis il est redevenu un monument et une abbaye. Et l'État a décidé d'y dépêcher un architecte pour remettre en état les lieux, parce qu'ils avaient été quand même assez dégradés par cette période carcérale. Et donc l'architecte arrive avec dans ses valises sa femme de chambre, Annette Boutiot, qui venait de la région de Nevers, et qui arrive sur le mont et qui là tombe amoureuse du fils du boulanger, un certain Victor Poulard, et décide de s'installer finalement avec lui sur le mont, d'y rester, même quand l'architecte repart à Paris. Elle se marie et tous les deux, ils ouvrent une première auberge sur le Mont-Saint-Michel, alors qui n'est pas à l'endroit aujourd'hui où on trouve les établissements Poulard, mais c'est à l'endroit où aujourd'hui il y a la poste. Donc si vous allez sur le Mont-Saint-Michel et que vous voulez envoyer une carte postale, si vous rentrez dans la poste, vous verrez là la véritable cheminée de la mère Poulard, qui n'est pas celle dans laquelle aujourd'hui on fait l'omelette, mais qui a été conservée à côté du guichet de la poste.
Voilà. Mais ils ont tout de suite l'idée de l'omelette. C'est leur marque de fabrique rapidement.
Oui, tout simplement parce que sur le Mont-Saint-Michel, comme c'est une île, l'approvisionnement n'est pas forcément simple. En revanche, des œufs, on peut en avoir plus facilement que des produits frais, ça se conserve. Et surtout, les touristes arrivaient par vagues, hein, comme la mer, en fonction justement des horaires des marées. Ils n'arrivaient pas forcément pour l'heure du déjeuner. Ils peuvent arriver à 11h et puis avoir faim parce que la marche leur avait ouvert l'appétit. Et donc, c'était simple à l'époque de leur servir un plat rapidement fait, avec des produits qu'on avait sous la main, c'est-à-dire une omelette. Et c'est comme ça que l'omelette est née sur le Mont-Saint-Michel.
Et ce qui était fort, c'est le marketing que cette Annette Poulard met au point. Qu'est-ce qu'elle fait au moment de présenter l'addition?
Elle n'en présente pas, tout simplement. Elle demande à ses clients, alors, avez-vous bien mangé? Qu'est-ce que vous avez pris? Et puis elle compte sur l'honnêteté de ses clients pour lui dire ce qu'ils avaient mangé. Elle estimait que ça coûtait moins cher que d'avoir quelqu'un à la caisse, et que finalement les gens étaient plutôt honnêtes. Elle surveillait quand même, hein. Si on oubliait dire qu'on avait pris une bouteille de vin, rappeler que, dites donc, vous n'auriez pas quand même pris tout à l'heure un pichet, mais voilà.
Et comment on passe de l'omelette de la mère Poulard au petit gâteau qu'on peut manger dans les avions parfois, qu'on trouve un petit peu partout? On dirait que c'est un business multinational. International, pardon.
Évidemment, la mère Poulard à l'époque ne vendait pas ses biscuits, elle était aubergiste, elle avait une réputation d'être de bien accueillir les touristes, elle a effectivement donné des idées puisque le fils du boulanger avait des frères qui ont ouvert même des hôtels concurrents en profitant du nom Poulard à l'époque sur le mont, créant une petite guéguerre entre eux pour faire vivre le nom. Et puis finalement son auberge a continué à exister même après qu'elle ait pris sa retraite et après sa mort, et elle a été rachetée dans les années 80 par un homme d'affaires assez avisé qui était actionnaire à l'époque de différents établissements de discothèques à Paris comme les Bains Douches, le Palace, etc. Qui avait de la famille originaire de la région et qui était vraiment fasciné par cet endroit, qui avait également hérité d'un musée, d'un hôtel, et qui donc a voulu faire revivre cette légende et qui a petit à petit développé la marque qu'on connaît aujourd'hui avec ses établissements sur le Mont et cette activité de biscuiterie qu'on trouve dans les supermarchés bien ailleurs qu'au Mont-Saint-Michel. Mmh.
Lomi Guillot, en préparant cette émission, j'ai découvert un mot, on adore les mots avec Sidonie, c'est la tangue. C'est quoi la tangue?
La tangue, c'est la vase. Hein. On peut dire que c'est une façon plus jolie de dire la vase, c'est un mélange de sable et d'eau. En fait, c'est un sable assez foncé qui compose la baie du Mont-Saint-Michel. Et surtout, cette tangue, ce mélange sédimentaire, alors il y a du sable, il y a de l'eau, il y a des débris de coquillages, il y a tout un tas de choses qui font cette terre très humide, qui colle aux pieds et qui a surtout la particularité de retenir l'eau dans des poches, ce qui crée les fameux sables mouvants.
C'est risqué, ça?
Alors c'est risqué, ça peut faire peur parce qu'effectivement on s'y enfonce, on peut pas s'enfoncer totalement dans les sables mouvants, il y a un truc qui s'appelle la poussée d'Archimède qui fait qu'on reste à moitié hors de l'eau.
Mais c'est dur d'en dépêtrer quand même.
Ouais. Ça peut être stressant si on y est vraiment coincé, et surtout ça peut être stressant si la marée monte puisque évidemment elle peut vous recouvrir, et si vous n'en êtes pas sorti, là c'est embêtant. Il y a d'ailleurs plusieurs fois par été des gens qui restent coincés et qui sont secourus par les pompiers qui sont très vigilants sur les touristes qui se baladent et qui font l'expérience de ces sables mouvants. En tout cas, c'est très rigolo à faire. Il suffit de repérer un endroit où il y a du sable avec un petit peu d'eau, vous piétinez et puis vous allez voir que petit à petit ça vibre, un peu comme une peau de tambour mal tendue. Ça vibre, et puis petit à petit on s'enfonce. Voilà.
Et cette tangue,
elle a des vertus, cette tangue.
On peut pas passer à côté de cette dernière question. Elle a aussi des vertus.
Exactement.
Lesquelles?
Que c'est très très bon pour la peau. Si vous allez marcher dans la baie du Mont-Saint-Michel, ensuite nettoyez vos pieds, vous verrez, vous aurez des pieds superbes. Ça marche aussi pour les hémorroïdes. Certains disent qu'on peut aller tremper les fesses dans la tangue de la baie du Mont-Saint-Michel.
Et il y a des coins particuliers que vous nous conseillez pour la discrétion?
Écoutez, derrière un petit rocher, vous avez la chapelle Saint-Aubert, justement, à l'arrière du Mont-Saint-Michel. L'arrière de la chapelle est finalement assez calme. Vous pouvez tenter.
Écoutez, vous serez le seul responsable, l'ami Guillaume. Merci infiniment. Encore beaucoup de secrets passionnants à lire dans votre livre, Les secrets du Mont-Saint-Michel, aux éditions Prisma. Merci infiniment.
Vous écoutez RTL.